Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Les Ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister. Virginie Giraud propose un recueil de portraits historiques destinés à rendre visibles des femmes ayant exercé une influence dans des domaines longtemps dominés par les hommes. Historienne, notamment spécialiste de l'Antiquité romaine, de l'histoire des femmes et de la sexualité. L'autrice parcourt une période qui va de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Le livre ne se présente pas comme une histoire exhaustive des femmes, ni comme une suite de biographies longues, son format repose sur 40 notices courtes, accessibles et documentées dans leur intention. Son fil directeur est l'ambition, entendue non comme une qualité abstraite, mais comme la volonté d'agir, d'occuper une place publique ou de conquérir une autonomie dans des contextes qui la limitaient. Reine, artiste, scientifique, guerrière, responsable politique et femme d'affaires ivoisine. L'ouvrage cherche ainsi à interroger le double standard historique qui célèbre volontiers l'ambition masculine tout en suspectant celle des femmes d'être illégitimes, excessives ou scandaleuses. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'ambition féminine comme problème historique et non comme simple trait de caractère. Le principe organisateur du livre est l'ambition, notion dont Virginie Giraud souligne implicitement le caractère inégalement jugé selon le sexe. Dans les récits historiques traditionnels, la conquête du pouvoir, de la gloire, de la fortune ou de l'autorité intellectuelle est fréquemment présentée comme une disposition normale chez les hommes. Lorsqu'une femme poursuit des objectifs comparables, elle est plus volontiers ramenée à la transgression, à l'intrigue, à la vanité ou au scandale. Le titre, par leur volonté d'exister, déplace donc utilement la question : il ne s'agit pas seulement de femmes célèbres, mais de femmes qui ont refusé l'effacement auquel les normes sociales pouvaient les assigner. Cette approche donne une cohérence à des trajectoires très différentes, sans prétendre qu'elles relèvent toutes du même combat politique. Certaines ont agi depuis les positions de pouvoir que leur naissance ou leur milieu rendaient possibles. D'autres ont dû conquérir une légitimité dans les arts, les sciences, le droit ou les affaires. Le livre invite ainsi à distinguer l'ambition elle-même des conditions concrètes qui permettent de l'exercer. Son intérêt réside moins dans la célébration automatique des figures retenues que dans la mise en évidence du coût symbolique souvent attaché à l'autorité féminine. Deuxièmement, 40 portraits pour corriger l'invisibilisation sans prétendre à l'exhaustivité, le choix de 40 portraits répond à une fonction de visibilité. Une histoire générale privilégie souvent les institutions, les guerres, les dirigeants et les grandes ruptures. Les femmes y apparaissent de façon plus discontinue, ou seulement lorsqu'elles correspondent à des rôles exceptionnels, en réunissant des figures issues de plusieurs siècles et de plusieurs sphères d'activité. Virginie Giraud rappelle que leur présence dans l'histoire ne se réduit ni à quelques souveraines ni à une progression linéaire vers l'égalité. La diversité annoncée, scientifique, guerrière, artiste, reine, personnalité politique ou femme d'affaires, élargit le champ des formes d'action reconnues. Elle permet aussi de comprendre que l'influence n'est pas toujours institutionnelle, créer, écrire, soigner. Entreprendre ou défendre, une cause peut transformer des représentations et ouvrir des possibilités à d'autres femmes. Le format impose toutefois une sélection, non un panthéon définitif. Les absences ou la place accordée à certaines personnalités peuvent donc être discutées, comme dans toute anthologie. Cette limite fait partie de la lecture critique à adopter les portraits, offre des portes d'entrée plutôt qu'une cartographie complète. Leur valeur est de rendre immédiatement perceptible l'ampleur chronologique et sociale des contributions féminines, tout en incitant à poursuivre l'exploration au-delà des 40 noms retenus. Troisièmement, de l'Antiquité à aujourd'hui comparer des contraintes plutôt que projeter le présent. L'ampleur chronologique du recueil, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, est essentielle à son projet. Elle évite de faire de l'émancipation des femmes un phénomène limité aux périodes récentes et montre que des femmes ont toujours trouvé des marges d'action. Mais cette continuité ne signifie pas que leur situation soit comparable terme à terme. Une souveraine antique, une héroïne médiévale, une écrivaine du 19e siècle ou une personnalité médiatique contemporaine n'agissent ni sous les mêmes lois, ni avec les mêmes ressources, ni face aux mêmes attentes sociales. Le lecteur est donc invité à tenir ensemble deux idées : l'existence récurrente de résistance féminine à l'effacement et la profonde diversité des contextes qui leur donnent forme. L'exemple des bornes chronologiques mises en avant par la présentation, de Cléopâtre à Oprah Winfrey, signale cette volonté de relier des mondes éloignés sans les confondre. Une lecture utile consiste à observer, pour chaque trajectoire, les leviers disponibles : statut dynastique, talent artistique, savoir, réseau, notoriété ou engagement public. Cette méthode empêche de réduire les femmes choisies à des emblèmes intemporels. Elle fait apparaître l'histoire des femmes comme une histoire de contraintes variables, d'opportunités inégalement distribuées et de stratégies parfois contradictoires pour accéder à une reconnaissance durable. Quatrièmement, un format bref et ludique qui privilégie l'accès à l'histoire des femmes, les ambitieuses adoptent délibérément une forme de portrait court, présentée comme ludique et inspirante. Ce choix le distingue d'une monographie universitaire ou d'une biographie approfondie, l'objectif premier est de faciliter l'entrée dans des trajectoires historiques nombreuses et hétérogènes. La brièveté peut rendre le livre particulièrement utile à un lectorat qui souhaite disposer de repères, découvrir des noms ou replacer rapidement une personnalité dans un domaine et une époque. Elle correspond aussi à une logique de comparaison. La juxtaposition permet de faire ressortir les points communs entre des femmes séparées par les siècles, notamment l'accès difficile à la légitimité et le jugement social porté sur leur ambition. En contrepartie, un portrait condensé ne peut restituer toute la complexité d'une œuvre, d'un engagement ou d'une vie publique. Des lecteurs ont ainsi regretté que l'attention portée à certaines figures laisse moins de place à des aspects qu'ils jugeaient centraux. Par exemple, le travail de George Sand plutôt que sa vie amoureuse. Cette réserve ne disqualifie pas le projet, mais précise son usage. L'ouvrage est une synthèse de découverte, non la dernière étape d'une recherche. Sa clarté et son rythme servent la transmission. Une lecture critique reste nécessaire pour ne pas confondre sélection éditoriale et hiérarchie définitive des héritages. En dernier lieu, entre icônes, controverses et héritages, une lecture critique des modèles proposés, le livre rassemble des femmes devenues, à des degrés divers, des icônes. Cette notion est féconde mais exigeante, une icône rend une trajectoire visible et mémorable, sans la rendre nécessairement exemplaire sur tous les plans. L'ambition de Virginie Giraud est de montrer des femmes qui ont pris un pouvoir refusé ou se sont imposées dans l'espace public. Cela ne dispense pas le lecteur d'examiner les ambiguïtés morales, politiques ou sociales de chaque figure. La réception du livre a notamment soulevé des réserves sur le traitement de Brigitte Bardot. Certains lecteurs estimant que la présentation ne mettait pas suffisamment en perspective les aspects controversés de son image publique. Cette observation rappelle un enjeu général des ouvrages de portrait: valoriser la capacité d'action ne doit pas effacer les zones de conflit attachées à une personnalité. La meilleure manière de lire Les Ambitieuses est donc de distinguer trois niveaux: ce qu'une femme a accompli, les contraintes qu'elle a affrontées et les limites éventuelles de son héritage. Une telle distinction évite la géographie tout en refusant l'effacement. Elle rend aussi le livre plus utile intellectuellement. Au lieu de fournir des modèles à imiter indistinctement, il propose des cas pour réfléchir à la construction de la célébrité, de la puissance et de la mémoire historique des femmes. En conclusion, Les Ambitieuses s'adressent d'abord aux lecteurs qui souhaitent aborder l'histoire des femmes par un format rapide, clair et diversifié. Il peut convenir aux lycéens, étudiants débutant une exploration du sujet, club de lecture, ou lecteur curieux de compléter une culture historique souvent centrée sur les figures masculines. Son bénéfice principal est de fournir 40 points d'entrée concrets plutôt que d'énoncer abstraitement que les femmes ont participé à l'histoire. Le livre associe cette idée à des trajectoires situées dans les arts, les sciences, la politique, le pouvoir dynastique ou l'entreprise. Il aide également à repérer un mécanisme durable. L'ambition féminine a souvent été évaluée à l'aune de normes plus sévères que l'ambition masculine. Par rapport à des biographies isolées ou à des synthèses académiques plus amples, l'ouvrage se distingue par sa construction ontologique et son amplitude chronologique. Il ne vise ni l'exhaustivité ni l'analyse approfondie de chaque cas. C'est précisément ce qui lui donne son efficacité de livre de découverte. La sélection invite à circuler entre les époques et à comparer les modes d'accès au pouvoir, tout en laissant au lecteur la responsabilité de prolonger l'enquête. Certaines réserves sur le choix des figures ou sur la place accordée à certains aspects de leur parcours confirment l'intérêt d'une lecture active. En somme, ce recueil se démarque moins par une thèse théorique que par une mise en visibilité accessible de trajectoires féminines, accompagnée d'une interrogation concrète sur le prix social de leur ambition. Si vous souhaitez soutenir Virginie Giraud, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.